Le festival Vue du Québec à Florac revient.
Ah ben enfin des bons films.
Du mardi 8 au dimanche 13 avril.
8 lieux,
44 films.
Une quinzaine d'invités.
Une compétition de courts et de longs métrages.
Des ateliers pour découvrir le 7e art sous tous ses aspects.
Et le mercredi à partir de 10h.
Un plateau radio exceptionnel en direct de la pompe.
Sur Radio Bartas,
107FM.
Ben voilà, on y est. Le festival Vue du Québec a commencé. Bonjour à toutes et tous. Ça a commencé mardi avec la soirée d'ouverture. Place ce matin au plateau radio avec des invités EES exceptionnels qui nous ont fait la gentillesse d'accepter de venir en direct de la pompe. Plus ou moins 2 heures pour parler de leur cinéma, de leur travail, de leur projet. Bref, pour apprendre à les découvrir sous un angle un peu différent. Allez, un peu plus intimiste peut-être, et c'est sur Radio Bartas que ça se passe, bien sûr, radio locale, libre, indépendante, associative. À la technique, c'est Léo, bien sûr, fidèle au poste, merci beaucoup à toi. Et pour m'accompagner toute cette matinée, comme chaque année, l'œil de lynx du cinéma québécois, fin connaisseur, co-programmateur de ce festival, et bien sûr l'animateur de Vue du Québec. Bonjour Daniel.
Bonjour Ben.
C'est un vrai plaisir, hein, Daniel.
Oui.
Réponse laconique.
non, mais j'ai toujours hâte à la radio. C'est mon médium préféré, donc toujours heureux d'être là.
J'ai l'impression de me répéter tous les ans, mais tant pis, ça vaut le coup. Encore une programmation énorme cette année et d'une qualité qui montre encore toute l'étendue du talent qu'ont cinéastes, scénaristes ou encore les musiciens, musiciennes qu'on reçoit cette année du 7e art québécois.
Exact. C'est notre programmation la plus généreuse, tant au niveau des films qu'au niveau des invités. Parce que je veux commencer par une petite blague.
Avec plaisir.
Tu t'appelles Ben. Il y a un lieu mythique qui porte le nom de Ben en Estrie, dans la ville de Grimbay. Il y a un restaurant qui s'appelle « Chez Ben, on se bourre la bédaine ». Et je voulais absolument te le dire. C'est un lieu charmant. C'est très gras comme nourriture, mais le panneau lumineux n'a jamais changé. Je ne sais pas, il date de quelles années? Probablement les années 60. Et c'est vraiment quand on rentre dans Grimbay, c'est là qu'on veut aller.
Justement, en transition tout trouvé, on part en Estrie cette année, région frontalière avec les États-Unis. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Oui, voilà. Des États-Unis ou... Oui, non, on essaiera de pas en parler.
On va essayer de faire ce qu'on peut, en tout cas. Si ça arrive sur le plateau, ça arrivera sur le plateau. Sous quel signe, au pluriel, sont placés ce festival cette année?
Donc, tu viens de le dire, la région de l'Estrie, qui est une région... Les gens de Montréal, on a le choix souvent pour nos week-ends d'aller dans deux régions, les Laurentides ou l'Estrie. Puis il y a vraiment deux camps. L'année passée, on a reçu la gang des Laurentides. Là, c'est l'Estrie. Moi, c'est ma région préférée au Québec, je ne me cache pas. Je me sens vraiment bien en Estrie, presque aussi bien qu'à Florac.
Oh, c'est beau!
C'est une région très vallonneuse, c'est une région très inspirante. S'il y avait encore aujourd'hui des grands peintres, on irait peindre en Estrie. Il y a quelque chose dans l'image, dans l'air, dans la lumière, surtout l'automne. L'automne, c'est tellement beau. Ça n'a juste aucun sens. Donc, très normal qu'il y ait beaucoup d'artistes qui s'installent là. Il y a beaucoup de plateaux de cinéma qui vont là, plateaux de télé aussi.
Oui, parce que le décor est absolument fantastique.
Oui, vraiment, vraiment. Et c'est seulement à 1h30, 1h15 de Montréal. Ça commence et après, on peut rentrer plus profondément dans l'Estrie. Donc, il y a ça. On a un petit clin d'œil à l'Acadie cette année encore. On aime bien l'Acadie. On commence toujours le festival avec un tête-à-mort. Donc, présence acadienne encore. Sinon, on a plein de petits électrons libres aussi, des films qui ne sont pas liés nécessairement, qui ne sont pas nécessairement récents. Je pense aujourd'hui, entre autres, à Dédé à travers les brumes.
André Fortin, le chanteur des colocs.
Exact. Et c'est vraiment un excellent film musical. Pour ceux qui aiment la musique des colocs, vous allez être agréablement surpris. Puis, on a aussi un 32 août sur Terre qui est le tout premier film de fiction de Denis Villeneuve, qui met en vedette Pascal Bussière, qui est présente au festival.
Et on la recevra tout à l'heure en deuxième partie de plateau. Ça va être trop bien. Et on commence très fort, d'ailleurs, ce plateau radio avec nos premiers invités. Notre premier invité a plus de 50 ans de carrière, un prix d'honneur pour l'ensemble de son œuvre ici sur ce festival. Une vingtaine de films qui va de l'eau chaude, l'eau frette et jusque l'incroyable Ababouiné, qui est sorti en 2024. Un cinéaste qui n'a eu tout au long de sa carrière que l'envie de surprendre et d'aller là où on ne l'attendait pas forcément. André Forcier, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, on est bien. Tu peux m'appeler Ben. On se tutoie tout
ouais, 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 mais moi, tu peux m'appeler Marc-André. parce que mes amis m'appellent Marc-André. Je signe mes films André Forcier parce que quand j'ai fait mon premier film, mon premier court-métrage avec des moyens professionnels, je trouvais que Marc-André, ça se cadrait mal. Alors, j'ai décidé de m'appeler André Forcier. Mais dans ma famille, on m'appelle soit André ou soit Marc-André. Puis, ça dépend de mes amis. Il y en a qui m'appellent André, d'autres Marc-André. Alors, quand je les appelle au téléphone, je leur dis c'est Marc-André ou c'est André, ou je me demande comment ils m'appellent celui-là.
Marc-André, alors, avec plaisir. On est aussi en plateau avec une jeune actrice qui a joué dans Ababuné, un film extraordinaire dont on reparlera tout à l'heure. Maïla, bonjour.
Bonjour.
C'était ta première expérience cinématographique?
Oui, c'était ma première expérience. Je n'avais jamais fait de cinéma, de publicité, même de télé. Alors, j'ai adoré. J'ai la piqûre, en fait.
Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure?
Je suis rentrée dans une agence de casting. Mais en premier, ils m'ont refusée. Ouais, ils m'ont refusée. Fait que là, c'était pas possible qu'ils m'aient refusée. J'étais comme, ben là, je veux faire partie de cette industrie-là. Alors, j'ai re-auditionné pour rentrer dans l'agence. Ils m'ont pris. Et quelques semaines plus tard, j'ai été prise pour le rôle d'Angèle.
Mmh. Ouais. Angèle, envers et contre tout, hein, parce que tu te bats quand même contre toute une classe. Tu es assez décalée dans le film. C'est extraordinaire. On en reparlera tout à l'heure. Linda est avec nous. Bonjour, Linda.
Bonjour.
Alors, tu es la compagne de Marc-André. Ouais. Voilà. Et tu es scénariste aussi.
Oui, co-scénariste, productrice. J'ai déjà été monteuse. Oui. Plusieurs métiers.
On reparlera aussi de ton travail. Donc, tu as collaboré avec combien de films avec
Huit. Non,
plusieurs.
Oui, plusieurs.
Presque tous, directement ou moins directement.
Oui.
D'une manière ou d'une autre. Alors, Marc-André ou André, voilà.
Non, Marc-André.
Marc-André, avec plaisir. Aussi. Trois de tes films sont projetés sur ce festival.
Il y a un
quatre. Quatre. Ouais, voilà, je savais. En tout cas, il y a un documentaire aussi qui t'est consacré, que j'aurais bien vu en ouverture de ce festival, d'ailleurs, des histoires inventées, hein, de Jean-Marc Hirois, qui sera avec nous tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, je ne sais plus contre... mais je suis sûr que vous l'avez dit. Tu dis que la plupart des films sont malheureusement prévisibles. Est-ce donc pour ça que tu as toujours essayé de surprendre et d'aller vers des chemins où on ne t'attendait pas forcément?
Ben ça, la vie est imprévisible, donc je ne vois pas pourquoi les films seraient prévisibles. Pour me détendre, j'écoute Netflix. Je sais que c'est américain. Je ne sais pas si on va se débarrasser de ça. Là. Mais j'aime me détendre avec le genre de film que je fais pour moi. Mais Linda et moi, puis mon fils François, mon autre fils Renaud, qui travaille parfois à la scénarisation aussi, aime bien que nos histoires soient imprévisibles. Mais c'est pas qu'on a cette volonté-là, c'est que ça arrive de même, comme dans la vie.
C'est quoi ton premier souvenir de cinéma, ce qui t'a quelque part illuminé?
Je suis venu au cinéma parce que j'ai cassé à gueule le professeur. J'étais auparavant, j'ai 77 ans, il faut le dire, fait que c'est un autre contexte. J'ai fait mon primaire dans les années 50 et la religion était obligatoire. Et ça, on en parle en babouiné, mais moi, je voulais faire du droit criminel. Mon père était policier, je sais pas si c'est une espèce de vengeance consciente, mais j'étais fasciné par le droit criminel. J'étais, comme les procès sont publics, j'allais à la cour provinciale à Montréal pour voir... plaider des grands criminalistes comme Daou, Morneau. Et j'étais fasciné par la cruauté de ces gens-là. La cruauté m'a toujours fasciné. La façon dont ils défaisaient les témoins, les faisaient se contredire, m'impressionnait. Et j'aimais cet art-là, finalement. Et puis, j'ai fait mon cours classique après, c'est-à-dire on nous imposait 7 années de primaire. On n'avait pas de maternelle. La maternelle, c'était privé, il fallait payer. Alors moi, j'ai commencé en première année. Et puis, comme je suis un assez bon élève, mais les bons élèves se trouvaient au cours classique, c'est-à-dire dans un système d'éducation totalement religieuse, comme dans l'école publique aussi. Et puis, en 10e année, en méthode, parce que c'était éléments latin, syntaxe, méthode, versification, rhétorique, philo 1, philo 2, on apprenait le grec, le latin, etc. En méthode, on nous a donné des choix d'options, à savoir, il y avait un cours expérimental de cinéma et d'art plastique que je ne voulais pas prendre parce que je n'étais pas un artiste. Je me demande si j'en suis un, d'ailleurs. J'ai un complexe d'imposteur. Et il y avait un professeur de français et de latin qui m'enlevait 15 points, plus que 15%, parce qu'il n'aimait pas ma calligraphie. Pourtant, c'était lisible, mais il trouvait inesthétique ma calligraphie. Alors, cet enculé-là, je l'ai rentré dans les cases, et puis ça m'a donné une sanction, à savoir que je n'avais pas le choix d'option. Moi, je voulais faire du grec, parce que je suis assez bon en français, et puis on m'a dit, non, tu vas faire de l'art plastique et du cinéma. J'ai dit, du cinéma, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, ouais, vous allez apprendre l'histoire du cinéma, les bases du cinéma, puis il y aura même une caméra 8 mm. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis pas un artiste, je ne vais pas me retrouver avec les tapettes du cours d'art plastique. Je dis, quand tu as 15 ans, bon, ils faisaient de la peinture abstraite. Pour moi, c'était n'importe quoi, tu sais, puis ils étaient prétentieux. Alors, je me retrouve avec cette gang-là, obligé de suivre un cours, parce qu'on m'avait imposé l'option art plastique cinéma, obligé de suivre un cours de cinéma. Alors, j'étais pas délinquant, mais j'étais très ado. Alors, le premier cours de cinéma que je suis était éminemment théorique, ça portait sur Buñuel, mais j'ai dormi le cours. Par bravacherie, par niaiserie. Et après ça, on nous a amenés à voir un film de Buñuel, parce que le cours théorique portait sur Buñuel. Et c'était Terre sans pain, qui était tourné de façon illégale pendant la guerre d'Espagne par Buñuel, et qui parle d'un village appauvri par la Révolution. Et on nous a demandé d'écrire une critique sur ce film-là. Et pour la première fois au collège, il y avait un élève qui obtenait 100% dans un travail. Alors, il y a des gens qui ont lu mon texte et puis m'ont dit « Tu devrais nous écrire des poèmes » parce qu'il y avait une revue littéraire au collège qui s'appelait « Sextant ». Alors, ils m'ont dit « Écris-nous des nouvelles puis des poèmes ». Alors, bon... ça m'a valorisé, alors j'ai noirci la revue de poèmes et m'a fait une réputation de poète. En fait, j'ai découvert l'écriture en écrivant sur le cinéma, en faisant un travail théorique. C'est éminemment absurde, je le sais. Après ça, je suis devenu un film bof, mais je continuais à assister au procès pour... parce que je voulais faire du droit criminel. Et le cinéma, pour moi, c'était devenu... je suis devenu un peu un film bof. J'allais voir des films à la Cinémathèque, mais ça s'arrêtait à ça. Mais je me souviens, on avait été voir Paris vu par Pierre ou le Fou, etc. C'est ça. En rhétorique, ça s'appelait la rhétorique parce que c'était la la 13e année du cours classique, du cours en général, 7 années de primaire plus 8 années de classique. Alors, avant de faire ta philo 1 puis ta philo 2, tu faisais ta rhétorique. Alors, la religion était obligatoire à ce moment-là, comme partout au Québec, dans le système d'école française. Et donc, les gens qui avaient suivi le cours du cinéma, les gars qui avaient suivi le cours du cinéma, on se tenait pas mal ensemble. Alors, on est allé voir le jeune moine qui enseignait la religion en rhétorique. Et on lui a dit, écoute, ça ne nous intéresse pas d'enseigner la religion, mais le gars était bien cool. Et il dit, ce que je comprends, je trouve ça absurde d'enseigner la religion en rhétorique à des adultes. Alors, donc, il dit, je vous donne rendez-vous jeudi. Alors, jeudi, on va le voir à 4 heures. Et il y avait 100 $ en coupure de 10 $. Il y avait de péloche en 8 mm. Et puis une caisse de 24 bières Molson. On est parti avec ça. Puis on a tourné un film qui s'appelle... Puis c'est pas mon film parce qu'on était 6 à le faire. C'est une œuvre collective. On a tourné un film qui s'appelait « La mort vue par », inspiré de Paris vue par. Ce film-là a gagné le Grand Prix à Radio-Canada, un Grand Prix qui était destiné... il y avait une émission qui s'appelait « Images en tête ». Alors, on a gagné le Grand Prix. Gilles Carle était sur le jury. Gilles Carle, qui allait devenir mon mentor, nous a dit, ben c'est dommage que le film n'ait pas été tourné en 16 mm parce que je l'aurais jumelé en court-métrage avec Le viol d'une jeune fille douce. Gilles travaillait pour Onyx Film. Il faisait des commerciaux de Pepsi pendant la semaine. Puis la fin de semaine, il faisait un film indépendant qui est son deuxième long-métrage. Le viol d'une jeune fille douce. Alors, donc, il dit, si vous voulez avoir accès à des moyens professionnels, moi, j'ai pas d'argent pour vous, mais il y a de l'équipement, il y a des salles de montage, on a des chutes de pellicule, etc. Alors, j'ai pris un peu de mes épargnes, j'ai... écrit, produit et réalisé Chronique labradorienne, qui est un film qui se passe en 1973, tourné en 1966, et qui parle de jeunes Québécois qui veulent s'emparer du Labrador après l'indépendance du Québec. Alors, en 66, on s'imaginait que l'indépendance aurait lieu en 73. Ce film-là a circulé auprès de certains cinéastes. J'avais perdu la copie, mais j'entendais dire que tel cinéaste l'avait vu, etc. Je me suis fait un petit nom avec ça. Je commence à je parle comme un Français. Là. Du coup, on ne disait pas ça avant, là, nous autres, là, mais là, les jeunes le disent. Là,
ah oui,
là,
trop.
Le français international, non, il n'y a pas de français international. C'est-à-dire que chez nous, c'est vous qui avez l'accent. Alors, bref...
c'est pareil pour les Belges. Hein. C'est des Français qui ont un accent. Hein,
oui,
oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, donc, c'est ça que j'en étais avec tout ça, là.
Alors, vous étiez sur le film sur l'indépendance du Québec.
Après ça, j'ai tourné un long-métrage amateur en 16 mm noir et blanc qui s'appelle « Le retour de l'Immaculée Conception », qui a suscité une certaine curiosité dans le milieu aussi. Et puis, après ça, j'ai tourné « Bar Salon » avec l'aide de Téléfilm Canada, qui s'appelait d'une autre façon avant. Et... ça a fait quand même beaucoup de festivals. Ça a gagné des prix. Et puis, quand je suis revenu au Québec, je je pognais avec les femmes. Là, c'est-à-dire que là, moi qui n'avais pas de chance avec les femmes, je me suis mis à en avoir. En fait, et puis c'est parti comme ça. Après, j'ai fait L'eau chaude, l'eau frette, qui a eu une très grande carrière. Puis les films se sont enchaînés.
Exact. L'eau chaude, l'eau frette qui va être présenté, qui est un des classiques d'André, qu'il ne faut pas manquer.
L'eau chaude, l'eau frette, ce sera jeudi à 15h45, 50 ans au service du cinéma, quand même.
Un peu plus que ça. Ouais,
un peu plus,
j'ai
oui.
J'ai commencé à tourner en 66. Chronique Labradorienne a représenté le Canada en 67 au pavillon de la jeunesse. Tu n'étais pas né pendant les 67.
J'étais même pas dans l'idée de mon père et ma mère.
OK, je ne sais pas si ton père et ta mère étaient dans l'idée d'un quelconque grand-père, en tout cas. Mais bref, en gros, c'est ça mon histoire. Et puis, j'enchaîne les films de film en film. Et puis, j'essaie de ne pas me répéter. Et j'essaie... d'enchaîner des films qui ne se ressemblent pas d'un à l'autre, mais même si j'essaie ça, il y a toujours une signature dont je ne peux pas me départir, mais c'est le cas des gens qui ont quelque chose à dire au cinéma. Bref.
Daniel, un petit mot sur la carrière et le cinéma, justement, de Marc-André.
Oui, bien, Marc-André, c'est notre plus grand poète cinématographique. Oui. Ses films sont très différents les uns des autres, mais on reconnaît, c'est beaucoup la langue. Moi, c'est son amour du Québécois et aussi des gens du Québec. C'est ce qu'on retrouve dans tous ses films. Puis il y a aussi une espèce de camaraderie, une espèce de solidarité qui est toujours présente dans ses films. Il peut avoir des bons et des méchants à l'occasion, mais il y a quand même un amour de tous les types de personnages. Je pense qu'André adore tous ses personnages, peu importe où il se situe, puis ça se sent. Puis c'est pour ça que le public accroche autant ses films aussi, parce qu'on peut se reconnaître dans plusieurs personnages.
Alors, même dans Ababuné, vous aimez tous les personnages, parce que... Alors, on rigole pendant une demi-heure dans Ababuné, après, on arrête vraiment de rire. Moi, personnellement, j'ai arrêté de rire. On le prend quand même dans la tête. Est-ce que vous aimez tous les personnages de Babuné, vraiment?
Oui, mais c'est des personnages inventés.
Ancré dans une espèce de réalité, quand même, qui fait son...
Ouais,
on ne peut pas le révéler non plus.
Oui, c'est-à-dire que le film est dédié à mon oncle Marcel, qui, lui, scandalisait la famille au jour de l'an en tenant des propos anticléricaux, à savoir qu'on ne devait pas enseigner la religion dans les écoles. OK. Alors, c'était le délinquant de la famille Forcy. Et je lui ai dédié le film. Et il y avait quand même, avant les années 60, un petit mouvement qui grenouillait, à savoir qu'on devait avoir une société québécoise laïque. Remarquez que j'ai rien contre la religion catholique. De toute façon, j'aime beaucoup le message du Christ. Je me considère comme un agnostique chrétien. Je suis pas...
Un message de paix, en fait, hein, ouais, simplement.
Oui, c'est un message d'amour aussi. Mais, je veux dire, je suis contre le fait qu'on impose une religion, quelle qu'elle soit, à l'école. Et puis, ça nous a pris quand même au Québec. Vous autres, vous avez tué quelques moines, là, quand vous avez fait notre révolution. Mais nous autres, on n'en a pas tué un câliste. Et puis, on est moins aliénés à la religion. Quoi, qu'en tant que chrétien, je vais probablement aller à l'office du Vendredi Saint quelque part, je ne sais pas où, parce qu'après ça, après Florac, on va aller pérégriner à Montpellier, on va se rendre jusqu'à Perpignan, et puis ma blonde veut... aller voir le pays des parfums. C'est où ça, Linda, le pays des parfums?
À Grasse.
Alors moi, pendant qu'elle va aller se promener dans les parfumeries, je vais fumer mon cigare en buvant un café au lait.
La laïcité est à nos portes dans le film Ababouiné, hein, qui est absolument génial. Ça se passe à la fin des années 50, en 57. On va pas pouvoir spoiler, je sais pas ce qu'on peut dire de ce film tellement il est surprenant, Daniel,
oui.
Mais grosso modo, toi, Maïla, tu joues le rôle d'une élève qui est très pieuse et très le chapelet en famille encore, etc. Je sais pas ce qu'on peut dévoiler. Comment t'abordes ce rôle en sachant que par rapport à à tous les autres élèves de la classe, tu es quand même un peu chahuté, je peux dire ça, chahuté, on va dire ça un peu comme ça.
En fait, Angèle, c'est comme que tu as dit, une fille qui tient au chapelet en famille, puis... Ah, tiens!
C'est-à-dire que le cardinal Léger donnait son chapelet en famille tous les soirs à 7h ou 7h15. Et puis, c'est vrai, j'ai vu ça, moi, des parents crier « chapelet, chapelet » parce que c'était pratiquement obligatoire d'écouter à la radio le chapelet en famille du cardinal Léger. Alors, Myla fait partie d'une famille pauvre, infectée par la religion, et elle doit obligatoirement aller faire son chapelet en famille. Mais ça, je laisse le crachoir à Myla.
Allez, reprends le crachoir, Myla.
Alors, je le reprends. Mais c'est ça, t'as pas mal tout dit, je pense. Angèle, c'est ça, elle vit dans une famille où que, t'sais, la religion est vraiment importante. Tu le manques... Vas-y.
Moi, j'ai une question pour toi. Comment tu as abordé le rôle? Parce que toi, c'est une période que tu n'as pas connue du tout. Je veux dire, la religion, à moins que je me trompe, dans ta famille, peut-être, n'est pas très présente non plus. Donc, comment tu t'es plongé dans ton personnage?
En fait, quand j'ai su que j'avais le rôle, j'ai tout de suite appelé mes grands-parents. J'ai appelé mes grands-parents, puis j'étais comme, t'sais, raconte-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi ce qui s'est passé au Québec dans ces années-là. Fait que là, elle me racontait des anecdotes que ses amis ont vécues. Puis là, je sais pas, là, c'était juste un petit peu choquant. Fait que j'ai pris ces anecdotes-là, puis j'ai fait comme si c'était moi qui les vivais, en fait. C'est triste. Je me suis vraiment comme incarnée dans ce personnage-là.
Mais bravo, c'est une bonne préparation, ça.
Merci.
Et alors, moi, j'adore aussi ce que j'ai aimé, c'est cet amour pour le français, hein, oui. pour les anciens mots, en fait.
Faut pas oublier que le français a été fixé comme une langue nationale en Acadie et au Québec, hein, parce que nos ancêtres bretons, normands, picards, alsaciens ne se comprenaient pas entre eux. Alors, c'est pour ça qu'au Québec, par exemple, on avait un problème, il y avait beaucoup d'hommes, il manquait de femmes, et on a pris des orphelines. On leur a donné un cours intensif de français normatif pour que le français devienne la langue commune de tout un peuple, alors que le français n'était pas fixé en France. Il s'est fixé comme langue commune de tout un peuple au Québec et en Acadie avant de se fixer en France. C'est avec la Révolution française et l'école obligatoire que le français s'est fixé en France. Nous sommes les premiers Français.
C'est vrai. Daniel. J'ai une question pour Linda, parce que là, tu étais à titre de productrice, on t'a présenté comme scénariste, mais tu as produit à Babouiner. Avec le scénario, est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne pouvait pas faire, peut-être dans les premières versions? Toi, comme productrice, tu t'es dit, OK, peut-être ça ne passera pas ou...
Non. Non, étant donné que j'ai travaillé, ça fait quand même près de 35 ans que je travaille vraiment auprès de Marc-André, c'est sûr qu'on ne se met jamais de limites. Les limites sont financières uniquement. Mm-hmm. Donc, les limites ont été posées surtout au niveau de la reconstitution. Donc, il fallait vraiment travailler. Donc, on ne se met pas de limite, mais on se limite à essayer de faire un film qui se tient et qui est le plus véridique possible de l'époque. Donc, on a pu trouver avec... Je ne suis pas la seule productrice. J'ai produit le film avec Roger Frappier, mm-hmm. qui a permis, en fait, d'avoir un budget beaucoup plus élevé parce que nous, André et moi, on a commencé... à produire de façon indépendante à partir du film Acapulco Gold que personne n'a vu. Et
je l'ai vu.
Oui,
oui, bah oui, et... l'œil de l'arc, ça, oui. Évidemment.
Et à partir de là, c'est sûr que on a fait quelques films d'époque, dont Embrasse-moi comme tu m'aimes aussi. Et ces films-là, c'est toujours complexe dans notre industrie parce que nous, on avait des budgets quand même. C'est pas relativement serré, c'était archi serré parce qu'on se prend pas de salaire pendant plusieurs années. Et là, on a pu, avec Roger, avoir un budget d'1 million de plus qu'on nous avait attribué. Et avec ça, là, on a pu faire ce film-là et avoir finalement, peut-être, éventuellement, avec les crédits d'impôt, un salaire.
Des collégiens sont en train de regarder en ce moment le film à babouiner. J'étais là, j'ai dit waouh, j'espère qu'ils ont été préparés. Et j'ai croisé leur prof ce matin qui passait là devant la pompe, là où on est avec Radio Arthas. Collège, ça passe, tu crois, ce film
Donc, Moi, 12, je crois que oui, parce que quand on a tourné à babouiner, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans quand on a tourné à babouiner. Puis cette année, l'année passée, il est sorti. Et j'ai invité mes amis à aller le voir au cinéma. Fait qu'on était une grosse salle avec toutes des amis de classe, des collègues, des connaissances. Puis pour de vrai, ça a bien passé parce que, tu sais, faut juste se préparer à voir quelque chose comme ça.
Je crois que les profs ont bien fait le travail.
Oui.
Merci beaucoup, Maïla.
Avec plaisir.
Vraiment, c'était un bonheur. Ababuné est extraordinaire. Ce sera diffusé samedi à 21h. Effectivement, j'ai noté les 4 films sur le programme. L'eau chaude, l'eau fraîche, c'est jeudi à 15h45. Au clair de lune, c'est vendredi à 16h. Embrasse-moi comme tu m'aimes. C'est dimanche à 16h. Ababuné à samedi à 21h. En fait, il y en avait bien 4. C'est juste sur mes lancements. J'avais noté que 3. Marc-André, vous restez avec nous ?
Oui, si vous voulez.
Oui, parce qu'on va accueillir le deuxième plateau. On va faire une toute petite pause musicale pour parler du documentaire qui vous est consacré, qui s'appelle Des histoires inventées.
C'est un film de Jean-Marc Roy. C'est le film de Jean-Marc. Ce n'est pas mon film.
Vous êtes spectateur des scènes de vos films.
Oui.
L'angle est incroyable. On va en parler dans un instant parce que c'est assez extraordinaire. Et je me demande, j'ai réfléchi avec ma chère étante si j'avais déjà vu un documentaire comme ça. Et je ne suis pas sûr que quelque chose avait déjà fait. Enfin, en tout cas, on en parle dans un tout petit instant. On va faire une pause musicale avec un invité qu'on recevra tout à l'heure. C'est Pilou. Premier morceau de Pilou. Hein. On en parlera avec lui tout à l'heure. Merci.
L'histoire commence sur un nuage, petite goutte tombée du ciel. Jour gris écrit la première page. De là-haut, la terre est si belle. Elle troque sa flaque contre un ruisseau. Petit lac deviendra fleuve. Ils mènent à Rome, forcément nos chemins se croisent. Sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. À chacun son départ. À chacun sa rivière. Au bout de tous les couloirs, c'est toujours la même lumière. Laisse la flaque pour le ruisseau et petit lac deviendra fleuve. S'il mène à Rome, forcément nos chemins se croisent. Sous les ponts le temps s'écoule et nous mène à la mer. Et la terre, puisqu'elle est belle vue de là-haut, ici-bas c'est le ciel qui nous laisse sans mots. Sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. Et la terre, est-ce qu'elle est belle vue de là-haut? Ici-bas, c'est le ciel qui nous laisse sans mots. S'il mène à Rome, forcément nos chemins se croisent. sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. Et la terre, qu'est-ce qu'elle est belle vue de là-haut. Ici-bas, c'est le ciel.